Je crois que vous vous connaissez, Jean-Charles Bouchoux, vous connaissez Laurent Huguelin.
Oui, j'ai fait un stage avec lui. Un stage de chamanisme.
De tambour.
Et j'en ai un très très bon souvenir. Ouais. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ben, en tout cas, Laurent Huguely, j'ai reçu le livre Fusion qui vient de sortir aux éditions Mama. Bouddhisme et chamanisme, un cœur à cœur spirituel. Alors bon, moi je m'intéresse beaucoup au bouddhisme depuis très longtemps, le chamanisme aussi. Mais en même temps, je me suis dit, bon, c'est quand même un livre un peu loin de cette émission où on parle beaucoup d'amour, de sexualité.
Et pourtant.
Oui, et pourtant. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit, non, reçois-le, c'est quelqu'un de très, très authentique. Alors merci. Du coup, je me suis plus penchée dans le livre. Et je l'ai lu, et bon, je crois que beaucoup d'auditeurs connaissent un peu ma spiritualité. Et ce que j'ai trouvé formidable dans ce livre, c'est pas tellement ce que vous expliquez sur le bouddhisme et le chamanisme, mais c'est qu'il y a dans ce livre, j'allais dire, pratiquement toutes les clés qui fait qu'on peut s'ouvrir à soi-même et comprendre pourquoi, quelque part, parfois... on n'y est pas, justement.
Oui, c'est ça. J'ai souhaité réconcilier, en fait, ces deux traditions, ces deux types de spiritualité qui sont vénérables, très anciennes, mais c'est aussi une réconciliation avec soi-même, effectivement. Parce que dans le chamanisme, on va retrouver le rapport à la nature, un rapport qui est vraiment viscéral, je dirais même charnel, alors que le bouddhisme, c'est plutôt la sublimation, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement spirituel. Et lorsqu'on arrive à marier les deux, c'est aussi une manière de faire fusionner, justement, d'où le titre du livre, ces deux tendances que nous avons en nous, c'est-à-dire cet aspect terrestre, cet aspect qui a envie d'être dans le monde, qui a envie de faire quelque chose, d'être créatif, ça c'est plutôt le chamanisme.
Oui. Voilà, au niveau du charnel, en quelque sorte, au sens large du terme, le bouddhisme, c'est plus l'âme ou l'esprit, enfin, même si bien sûr, il y a des tas d'esprits dans le chamanisme. Alors, j'ai trouvé aussi quelque chose d'intéressant. Ça montre à quel point on a besoin d'être capable d'être un peu dans le silence. Et comme on est dans un monde de plus en plus bruyant, où il y a de plus en plus... Moi, j'ai l'impression que les gens ne savent plus rester tranquilles chez eux sans forcément allumer la télé ou la radio ou mettre... j'ai l'impression qu'on entend ça beaucoup, si je puis dire, entre toutes les pages de ce livre Fusion.
Je trouve qu'il y a quelque chose d'extatique dans le fait de retrouver justement ce calme intérieur et de retrouver le silence, comme vous le dites. Et c'est pour moi un antidote, en fait, à la folie humaine, d'une certaine manière. Mais c'est un vieil antidote. Hein. Le bouddhisme, c'est 2500 ans d'âge. Et déjà à l'époque, c'était un rapport à la société, de se dire, OK, bon, je participe, mais en même temps, j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin de trouver cet espace pour ensuite être plus présent.
Et d'ailleurs, tous les grands maîtres spirituels ont été en retraite à un moment donné du monde. Je crois pas que c'est des bêtises.
Oui, hein. Jésus, Bouddha, tous les grands. Ouais, ouais. Mmh. Et il y a la notion de diète dont je parle aussi dans le livre, qui est en fait une ascèse typiquement chamanique d'Amazonie, durant laquelle les chamans se ressourcent. Et c'est souvent, ça se fait dans un cadre naturel, dans la nature sauvage, avec des restrictions alimentaires, etc. Et c'est une manière vraiment de revenir à soi. Et dans le livre, je propose une petite diète de 24 heures qu'on peut faire.
Il y a un mode d'emploi, oui.
Oui, c'est ça, il y a un mode d'emploi qu'on peut faire chez soi. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de faire cette expérience, de simplement se dire, OK, pendant 24 heures, je ne suis là que pour moi-même. Je me coupe du monde pour me reconnecter à moi-même. Et ensuite, l'intérêt de tout ça, ce n'est pas de rester à l'extérieur et de devenir une sorte
Non, mais voilà, c'est pour ça. Être un peu plus avec, se ressentir soi-même, en quelque sorte. Et vous parlez de diète donc alimentaire, mais quelque part, j'ai presque eu envie de dire que vous parlez aussi d'une diète qui serait une sorte de retraite et de rapport, finalement, à la solitude. Et quand j'entends souvent des personnes qui me disent je sais pas être seule, ça m'angoisse ou j'ai peur et on voit bien que ces personnes-là finalement sont en souffrance.
Absolument.
Et c'est là où peut-être le bouddhisme ou le chamanisme peut leur apporter des clés.
Oui. Alors cette diète qui se dit dieta en espagnol en Amérique du Sud, ce n'est pas uniquement effectivement une diète alimentaire. L'aspect alimentaire est assez accessoire. C'est plutôt une diète durant laquelle on fait en sorte de respecter la personne qu'on est lorsqu'on est...
On ne regarde plus son téléphone, par exemple.
Dans la diète, pas de téléphone.
Ah, ça, c'est pas possible.
D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir comme l'aspect ascétique s'est transformé, je dirais, ces 15 dernières années. C'est-à-dire qu'il fut un temps où c'était difficile de faire une diète alimentaire. Aujourd'hui, bon, il y a des modes de jeûne, etc. Donc, c'est devenu assez facile. Mais par contre, de se débarrasser pendant quelques heures, ne serait-ce que quelques heures, de ces addictions digitales, c'est aussi tout un travail sur soi qui est intéressant. Ça permet ensuite de voir ces choses-là comme des des outils créatifs et ne plus être dans la dépendance ou dans l'addiction, oui.
Alors, il y a beaucoup d'humour aussi dans ce livre, mais comme on le sait, les maîtres spirituels ont toujours eu beaucoup d'humour. Hein. Et alors, ça m'a fait rire parce que vous dites que le Père Noël était un chaman.
Oui, absolument. Alors, je tiens à préciser ici que... Une grande marque de boissons gazeuses américaines
a
volé l'image du chaman de Sibérie, c'est-à-dire que le rouge et le blanc, ce n'est pas une invention de Coca-Cola. C'est une couleur qui se réfère à un champignon qui est l'amanite tumouche, qui est pris par les chamans en Sibérie. Donc à la base, le Père Noël est un chaman parce que le rôle des chamans, c'était de ramener l'abondance pendant la période obscure, c'est-à-dire pendant l'hiver. Et la période qui a été ensuite, comment dire, reprise par les chrétiens, cette période qui est aux alentours du solstice, c'est la période la plus obscure de l'année, et dans cette période, c'était les chamans qui ramenaient la lumière. Donc toute la symbolique de Noël est liée au chamanisme. C'est important de le dire, oui, bon, il y a un petit trait humoristique.
Oui, bien sûr, mais je suis sûre que ça amuse beaucoup ceux qui nous écoutent et qui vont voir peut-être à Noël le Père Noël d'une autre manière. Alors vous évoquez évidemment beaucoup le lâcher prise et vous dites en fait il faut renoncer à ce qui nous attache à nos ombres. Vous pourriez expliquer parce que c'est joli, mais...
C'est une phrase importante.
Jean-Charles, vous pouvez réagir, hein, bien sûr. Hein, si vous aussi.
Il faut renoncer à ce qui nous attache à nos ombres.
Oui, le lâcher prise, c'est joli. Hein. Moi, ça me parle, mais je pense que ça a besoin d'explications
en fait,
quand même.
C'est un des premiers principes du bouddhisme qui est de ne pas nuire. C'est un petit peu comme le serment d'Hippocrate, mais version bouddhisme. Ne pas nuire, ne pas faire de mal, ne pas blesser, ne pas meurtrir, ne pas abuser, etc. Et en fait, il y a une addiction aussi au fait d'avoir des sensations dans ces abus-là, ou dans le fait de meurtrir l'autre, quoi. Ça peut être une forme d'addiction aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément uniquement accro aux choses positives, on peut aussi être accro aux choses négatives, quoi. Et le fait de lâcher prise sur nos ombres, c'est aussi prendre conscience du fait que bon, moi aussi j'ai mes ombres, hein, moi aussi j'ai mes addictions qui me collent au basque. Mais je les accepte et je les regarde en face. C'est-à-dire que ce n'est pas un déni, c'est vraiment...
Et c'est pour ça que vous pouvez d'ailleurs mieux les canaliser, parce
Exactement,
que vous les acceptez.
C'est ça. Donc il y a cette notion de voir...
Ça, c'est très Krishnamurti, ça.
Absolument, oui, mais l'enseignement du Bouddha est partout présent dans la philosophie indienne. Hein. Donc le fait de regarder qui nous sommes sous toutes nos facettes en face, ça nous permet d'acquérir une sorte de légèreté et aussi de rire de soi. C'est-à-dire que ce n'est plus dramatique, ça devient quelque chose qu'on peut transformer, etc.
C'est pareil aussi, on a eu deux auditrices depuis tout à l'heure qui parlaient de la colère. C'est pareil, si on accepte sa colère et si on l'observe, déjà on va être moins en colère, en quelque sorte.
C'est ça. Et l'observation...
Alors, si on lutte contre, forcément, ça va bouillir.
C'est ça. Et l'observation, c'est justement la technique de base du bouddhisme, c'est d'observer.
Oui, c'est ça. Et c'est ça le vrai lâcher-prise. Parce que nous parlions avant que tu n'arrives, puisqu'on se tutoie, des violences invisibles. Or, beaucoup d'injonctions sont effectivement des violences invisibles. Donc, lâcher-prise. Ouais, soyez naturel. Ou, je me rappelle, une dame me disait, mon compagnon me dit, que ta parole soit impeccable. C'est une... Si je vous dis que ta parole soit impeccable, je présuppose dans la phrase deux choses. Un, que votre parole n'est pas impeccable, mais que la mienne
Absolument.
L'est. C'est déjà une prise de pouvoir, donc il faut que nous fassions très attention à ça. Et c'est pareil quand on dit lâcher prise, vouloir lâcher prise, c'est une sacrée tension quand même. Hein. C'est dur de vouloir lâcher prise. Donc ça serait bien de lâcher prise aussi, du lâcher prise. Comment est-ce qu'on fait ? Et ce que tu viens de dire est très juste, l'observation, quoi. Oh, et la respiration.
Tu parles comme un maître zen, Jean-Charles. C'est-à-dire lâcher prise sur le lâcher prise.
Mais oui.
Je vois ça vraiment comme des invitations. C'est-à-dire que l'enseignement du Bouddha, par exemple, c'est une invitation. On n'est pas obligé de le faire. Oui. Ce ne sont pas des injonctions. Oui. Et effectivement.
Oui, mais c'est en ça que votre livre, Laurent Hugueli, est formidable. Ça s'appelle Fusion, hein, je rappelle. Parce qu'en effet, c'est une manière simple. Mais juste de nous expliquer tout ce qu'on lit dans les conneries sur la pleine conscience et compagnie, quoi. Enfin, excusez-moi, je me lâche.
Allez-y, franco, n'hésitez à aucun souci.
Non, mais c'est vrai, je ne citerai pas de nom, mais...
Non, on ne le cite pas.
On ne le cite pas. Mais c'est vrai, c'est à la fois très simple ce que vous expliquez dans ce livre, mais c'est pour ça que c'est si compliqué, quoi.
C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment rendre hommage à ces deux types de traditions en retournant à ce qu'elles sont réellement, également historiquement. Il y a tout un travail étymologique dans
le
livre.
Et si elles ont duré aussi longtemps, c'est peut-être parce qu'elles sont... D'ailleurs, à un moment donné, je crois que vous expliquez les addictions par rapport maintenant aux neurosciences. Enfin, je ne sais plus comment vous... Mais je sais que vous abordez à un moment ce sujet-là.
Oui, un chapitre sur les neurosciences. Oui.
Et franchement, déjà le Bouddha avait compris d'où venaient les addictions. Enfin...
C'est ça. J'ai souhaité faire le lien entre la science la plus pointue, on va dire, et l'enseignement du Bouddha. Alors, il y a un seul chapitre, hein, c'est pas tout le livre.
Non, bien sûr.
J'ai voulu laisser plus d'espace à la spiritualité qu'en fait à la science. Mais il y a un chapitre scientifique quand même pour les personnes qui souhaitent avoir du concret.
Et la physique quantique,
voilà,
évidemment.
Voilà, c'est ça, absolument. Sur les addictions, sur le fonctionnement du cerveau et sur le fait que par l'observation, justement, on arrive à défaire... certains réseaux neuronaux, c'est-à-dire que nos névroses, nos blessures sont également encodées dans notre cerveau et par la méditation, on arrive à petit à petit. Alors c'est un processus qui est lent et qui prend du temps.
Mais ce qui compte, c'est le chemin.
Exactement.
N'est-ce pas ? C'est pas d'arriver au but. C'est d'ailleurs ce que je dis souvent. Il faut pas. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on mette déjà un pied, deux pieds, et puis après, ben, on mettra le temps qu'on mettra. Mais une fois qu'on a commencé, déjà un changement va se. Vous êtes d'accord, Jean-Charles ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, ce qu'il faut, c'est essayer d'être le plus présent possible, en fait, hein, pour revenir au zen, puisque c'était. Tu m'as découvert. Donc, essayer d'être présent. Effectivement, les addictions ont quelque chose de diabolique, mais il ne faut pas non plus rentrer trop dans la culpabilité, parce que la culpabilité, elle entretient au contraire les addictions. C'est dire, ouais, bon, voilà, je suis encore addict à ça. Je le vois, quoi. Je l'observe. Et effectivement, revenir à la méditation ou à d'autres pratiques chamaniques qui sont très, très bien aussi. Manger des champignons rouges et blancs, c'est bien.
La culpabilité est un poison spirituel.
Oui.
Et un poison créatif, c'est-à-dire que c'est la culpabilité qui nous empêche d'être créatifs. Donc, ce que tu dis est absolument vrai, je trouve que c'est très important justement d'avoir cette subtilité de ne pas forcer, mais d'être plutôt dans le courant que d'être dans le flux, quoi, d'une sorte de douceur aussi dans le rapport qu'on a avec ses spiritualités.
Être tendre avec soi, ouais. Le mot qui est beaucoup revenu au cours de ces deux jours d'émission qu'on a fait, c'est qu'est-ce qui vous fait envie, quoi. Elle est où la vie ? Et je vous promets que j'ai des personnes qui sont venues me voir et simplement en posant la question, d'accord, mais attendez, pour vous, elle est où la vie ?
C'est ça.
Alors moi, il y a aussi quelque chose sur lequel je rebondis souvent et dont vous parlez dans ce livre, c'est la question du sens.
Le sens, quel est le sens de tout cela ? Alors bon, dans le chamanisme, le sens, c'est dans les intentions, c'est-à-dire qu'il y a cette notion d'intention, c'est-à-dire que derrière nos paroles, derrière nos pensées, derrière nos gestes, il y a des intentions. Et revenir aux intentions, c'est-à-dire qu'est-ce que je cherche exactement, enfin, quel est le but ? Je sais que le mot but, c'est un mot qui est parfois aussi assez mal compris, dans le sens qu'on se force à atteindre quelque chose. Mais quels sont les objectifs que j'ai envie d'atteindre ? Et par rapport à ces objectifs, nos pensées, nos paroles auront tendance à prendre un certain chemin et à prendre une certaine tonalité, quoi. Et si les objectifs sont clairement définis, donc dans le bouddhisme, il y a des intentions qui sont considérées comme étant les intentions de base, la non-violence, par exemple, l'acceptation, le lâcher-prise dont on a parlé. Une fois qu'on a compris ça, ben on aura tendance, petit à petit, à aligner nos pensées, aligner nos paroles et nos actions sur ce lâcher-prise, cette acceptation et cette non-violence.
Alors, dernière question, parce qu'elle est d'actualité, Laurent Hugueli, on a eu un sondage hier qui donnait pratiquement 50% de gens qui ne croient plus en Dieu. Est-ce que le bouddhisme, le chamanisme, c'est une manière de retrouver du sens à la vie humaine ou pas ?
Oui, je pense. C'est intéressant parce que, en fait, dans le bouddhisme, théoriquement, il n'y a pas de Dieu. Et dans le chamanisme, Dieu, c'est la nature. Néanmoins, je pense, et ça c'est mon point de vue personnel, qu'en fait nous sommes Dieu, c'est-à-dire que Dieu c'est tout ça. Cette chose dans laquelle nous vivons et que nous sommes, c'est Dieu. Mais le mot Dieu a été tellement mal utilisé, il y a eu un dévoiement religieux, un dévoiement du divin.
Oui,
quoi.
Mais c'est devenu un pouvoir politique.
Absolument. Et en fait le concept de Dieu a été entaché. Il a été malmené. Donc on peut parler d'autre chose que de Dieu. On peut parler de la beauté de la vie, on peut parler de la sagesse de la nature, on peut parler de ces choses-là, ou de la sagesse de la conscience dans le bouddhisme. Quoi. Oui, bien sûr.
Ça s'appelle Fusion, c'est aux éditions Mama. C'est un livre qui vous permettra peut-être de trouver du sens et peut-être de vous réconcilier avec votre âme. Merci beaucoup Laurent Hugueli.
Merci Brigitte, merci infiniment.